Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons examiné la question du végétarisme, ou pis, du végétalisme, dont les adeptes prétendent que la viande est un aliment néfaste à la santé. Qu'en dit la Bible ? Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attaquer à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. S'abstenir de manger la chair des animaux purs que Dieu a créés pour que l'homme puisse s'en nourrir est une doctrine de démon. C'est ce que la Bible déclare. Les Écritures confirment que Noé, Abraham, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, Daniel, le Christ lui-même ainsi que ses apôtres ont consommé la viande. On a découvert que celui qui ne mange aucune viande est physiquement plus faible qu'une personne qui en mange et que ses capacités mentales sont diminuées. L'homme a besoin de protéines animales et de certains acides aminés qui se trouvent dans la viande. Voilà pourquoi les protéines de la viande sont qualifiées de protéines à haute valeur biologique. Par contre, les protéines d'origine végétale n'apportent que peu ou pas d'acides aminés essentiels. Elles sont dites à faible valeur biologique. D'autres nutriments, comme certaines vitamines et certains minéraux, ne sont pas apportés en quantité suffisante par les seuls végétaux. Le cas du fer vaut la peine d'être soulevé. Nécessaire à la fabrication de nos globules rouges et donc à nous éviter les anémies, il se trouve dans la viande et dans certains végétaux, mais sous des formes différentes. Il se fait que la forme contenue dans la viande, la forme dite héminique, est beaucoup mieux absorbée par l'intestin que les formes se situant dans les végétaux. De plus, dans les végétaux se trouvent des substances appelées phytates, qui ont notamment pour effet de freiner davantage l'absorption du fer. Enfin, finissons-en avec le mythe de Popeye. La richesse en fer légendaire des épinards est une erreur historique qui a la vie dure. Si les épinards contiennent effectivement du fer, il faudrait en consommer une quantité très importante pour couvrir les besoins nutritionnels. Toutefois, le végétarisme, parce qu'il tolère des protéines d'origine animale comme celles des œufs et du lait, expose moins à des carences en acides aminés essentiels que le végétalisme. Il a été remarqué que les ondes cérébrales sont identiques entre les végétaliens de longue date et les épileptiques. Être végétalien, même végétarien, est souvent nécessaire pour faire un bon médium. Hitler était démoniaque, comme le prouve son comportement rapporté par les livres d'histoire. Il a été utilisé par Satan, il était végétalien, Satan veut dominer notre esprit, et cela lui est d'autant plus facile si nous sommes diminués mentalement. Conformons-nous donc aux instructions divines, et mangeons de la chair animale pure. Examinons maintenant la question de la consommation du vin. Certaines religions proscrivent le vin. Loin de moi, l'intention de vous inciter à en abuser, mais que dit la Bible au sujet du vin ? Le mot vin, tel qu'employé dans les Écritures, se rapporte-t-il au jus de raisin ou à ce même jus fermenté, donc au vin ? Les prohibitionnistes soulèvent des objections et émettent des doutes, se demandant si les mots originaux, soit en hébreu ou en grec, se rapportent vraiment à une boisson fermentée, donc au vin. D'autres prétendent que le vin mentionné dans la Bible n'est que du moût, n'ayant aucune teneur en alcool. Le moût est le jus de raisin qui vient d'être exprimé et qui n'a pas encore subi la fermentation alcoolique. En prenant la peine d'examiner les textes bibliques, nous n'aurons aucune difficulté à découvrir la vérité sur ce sujet et nous constaterons qu'il s'agit bel et bien d'une boisson fermentée, donc contenant de l'alcool. Le premier exemple biblique où le vin est mentionné est celui de Noé. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Le vin avait causé son ivresse. Il ne pouvait donc s'agir de simple jus de raisin ou du mou. Dans ce passage, le mot « raisin » est traduit de l'hébreu « yaïn », ce qui signifie « vin fermenté », et ce mot est utilisé pour toutes sortes de vins. Cette boisson contient de l'alcool puisqu'elle provoqua l'ivresse de Noé. Voyons un autre exemple. La rencontre entre Melchisédek et Abraham après son retour victorieux contre Kedorlaomer, roi d'Élam, et contre les autres rois qui l'accompagnaient. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisédek offrit du pain et du vin. Ici, le mot « vin » est traduit de l'hébreu « yaïn ». Melchisédek est l'Éternel de l'Ancien Testament. Il est celui qui allait devenir le Messie, le Christ. Si vous souhaitez recevoir notre étude, il vous suffit de nous la demander. Un autre mot est parfois traduit par « vin » dans les Bibles françaises. Il s'agit du mot hébreu « tirosh » qui s'applique au jus de raisin qui vient d'être pressé. Après la destruction des villes de Sodome et Gomorre et la mort de son épouse, Lot se retrouva seul avec ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, le même scénario se répéta, mais avec la plus jeune. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Ce récit nous permet de conclure que Lot était sous l'influence de l'alcool lorsque ses filles conspirèrent cet inceste. Le mot « vin » dans ce passage est toujours traduit de l'hébreu « yaïn ». Si je risque de vous choquer à l'évocation de ce récit biblique, souvenez-vous que l'apôtre Paul a écrit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous devons donc tirer un enseignement de tous les exemples cités dans la parole de Dieu. Les bons exemples sont à imiter, tandis que les mauvais exemples sont à rejeter, à éviter. Le livre d'Esther nous décrit ce qui se passait à la cour du roi Assuréus. On servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna d'amener en sa présence la reine Vashti. Puisque le roi avait le cœur réjoui par le vin, on ne devait pas lui servir du mou, mais plutôt une boisson alcoolisée. Il s'agit toujours du mot « yaïn ». C'est encore ce même mot « yaïn » qui est utilisé dans les passages suivants. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin. Dans chacun de ces passages, le vin qui provoque l'ivresse ne peut être qu'une boisson alcoolisée et non pas du mou, du jus qui n'a pas encore subi la fermentation, cette fermentation qui transforme le sucre en alcool. Dans le Nouveau Testament, le mot grec correspondant au mot hébreu « yaïn » est « oinos », signifiant également « vin ». La parabole du bon samaritain prouve que ce terme désigne une boisson alcoolisée. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Mais un Samaritain s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ce vin devait avoir une teneur en alcool afin d'être employé comme antiseptique. Il ne viendrait à personne l'idée de verser du jus de raisin ou du mou sur une blessure pour la désinfecter. Le Christ changea l'eau en vin aux noces de Cana. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira ». Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Dans ce passage, les mots « vin » sont traduits du grec « oinos ». Il est donc bien question d'une boisson alcoolisée, puisque l'ordonnateur du repas déclare « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. » Il est certain que si le Christ transforma l'eau en vin, afin que tous les convives puissent en bénéficier, c'est parce qu'il admet la consommation du jus fermenté du fruit de la vigne. Au cours de ce repas de noces, il en a probablement bu avec les disciples qui l'accompagnaient. Voyons la recommandation de Paul à Timothée. « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Nous retrouvons ce même mot grec « oinos » dans Éphésiens 5:18, où l'apôtre Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Remarquez que Paul n'interdit pas la consommation de vin, mais plutôt l'abus de cette boisson. Certains affirment qu'au cours de la dernière Pâque, le Christ n'a pas utilisé de vin. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mais il s'agit bien d'un vin et non d'un jus de raisin non fermenté. À cette époque, le jus de raisin ne pouvait être conservé jusqu'au printemps. Il se transformait en vin environ 40 jours après la vendange. Après quoi, le jus de raisin était transformé en un sirop épais. Mais ici, il n'est pas question de sirop. Ceux qui connaissent tant soit peu les pratiques de la communauté juive à l'époque du Christ confirment que l'on utilisait du vin fermenté lors de la Pâque. Paul écrit « Dit que les femmes âgées doivent ainsi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées aux excès du vin. S'il s'agissait de jus de raisin ou de mou, cet avertissement ne serait pas nécessaire. » Il confirme qu'il s'agit encore d'un vin fermenté, du grec « oinos ». Consommer avec modération l'alcool contenu dans le vin ou dans d'autres boissons peut être profitable. C'est pour notre bien que Dieu recommande de ne pas abuser des boissons alcooliques, mais les Écritures ne les proscrivent pas. Comme nous venons de le voir, trop de gens ne connaissent pas la démarcation entre la tempérance et l'abus. Dans leur cas, il serait préférable qu'ils s'abstiennent totalement de boissons alcooliques.